солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour ou bonsoir, suivant évidemment l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et bienvenue pour ce quatrième épisode du podcast Footballski. Alors aujourd'hui, vous aurez le droit à un podcast un peu différent des trois premiers que vous avez pu écouter depuis que nous avons lancé l'idée sur le site, puisqu'il ne concerne pas des adversaires de clubs francophones en Coupe d'Europe ou d'un portrait de joueur comme on a pu le faire mercredi dernier avec Lukasz Teodorczyk, mais plutôt un sujet intemporel qui sort un peu de l'ordinaire, puisque bon, voilà, à Footballski on est un peu connu pour ça, c'est un peu la recette de la maison. Justement, l'idée initiale quand on a décidé de lancer ces podcasts, c'était justement de varier entre actualités de nos clubs respectifs, chaque rédacteur a plusieurs pays sur lesquels il se concentre, mais aussi actualités du site. Et c'est justement une excellente occasion de démarrer avec ce podcast. Justement, avant de rentrer dans l'art, avant de rentrer en détail dans le sujet que l'on va aborder, et que, voilà, je laisse un peu de suspense, mais vous le connaissez déjà puisque vous avez lu le titre de la page en cliquant dessus, j'ai avec moi les trois personnages principaux de l'histoire. Les trois aventuriers qui méritent d'être présentés, parce que, voilà, étant donné la région dans laquelle ils sont allés, ils ont pris quelques risques, donc ils méritent d'être présentés en bonne et due forme. Ah, tout d'abord, nous avons un habitué du podcast, hein, puisque c'est sa deuxième apparition déjà, après qu'il nous ait présenté Dom Jallet lors du premier épisode. Un homme mi-français, mais aussi mi-kazakh, mi-slovène, et mi-croate, Damien Goulagovic. Salut Damien.
Dobro. Et je voulais dire aussi que j'avais participé à des podcasts à l'époque où on faisait des lives, pas forcément de très bonne qualité, mais ceci dit, c'était quand même des podcasts.
Ouais, une époque un peu sombre quand même.
Ah, un peu.
Avant de continuer, je dois te poser la question, Damien. On a vu sur ton Instagram que tu avais signé au FK Bistrica en D2 macédonienne. Comment ça se passe tes premiers jours sous tes nouvelles couleurs?
Bah écoute, le projet m'intéresse, j'ai visité les installations, tout s'est bien passé. J'ai eu un bon feeling avec le président qui a été un champion de kung-fu à son époque. Un bel ours, une belle bête. Donc je vais essayer de pas le décevoir et voilà, tout se passe bien.
Eh bien parfait, hein, tu nous envoies ravis, puisque c'est quand même pas tous les jours qu'on peut envoyer un rédacteur dans un club de D2 macédonienne. Alors par contre, Damien, voilà, Footballski a un nouveau club partenaire en Détroit, donc de la Macédoine, le Mazari Solidarnosc, hein, dont vous pourrez évidemment suivre les aventures cette saison, et on l'espère les saisons suivantes, sur le site internet. Je pense qu'on, voilà, on va être intéressé par ton profil, hein, t'es quand même un joueur de qualité.
Très bien, j'écoute, va falloir me faire une belle proposition et j'y réfléchirai avec mon agent.
Parfait. Ensuite, nous avons donc le géorgien de l'équipe, Antoine Gauthier. Comment ça va, Antoine?
Ça va très très bien, et toi Quentin?
Bah ça va, motivé pour ce beau podcast, en tout cas qui s'annonce beau.
Excellent.
Surtout que nous avons un troisième invité, venu tout droit du fin fond d'Ekaterinbourg, fan numéro 1 du bel homme Fedor Smolov, Antoine Jarry. Salut Antoine.
Salut.
Donc si nous avons réuni Damien et les deux Antoine, c'est parce qu'ils sont partis tous les trois à la mi-août pour un petit football ski trip, le troisième du nom, puisqu'on essaye d'en organiser un tous les étés. Et justement, l'été, c'est l'occasion parfaite de voir des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Si je me trompe pas, chacun d'entre vous en avait déjà fait un de football ski trip.
Exactement, on avait fait celui en Géorgie tous les trois l'année dernière. On était la même équipe.
Et moi, j'avais fait celui en Roumanie, le tout premier de l'histoire du site. Donc celui en Géorgie, comme il vient de l'évoquer. Et j'avais fait aussi avec Adrien et Antoine en République tchèque et en Slovaquie.
Et je crois, ouais, justement, Antoine J, du coup, je vais t'appeler Antoine J, parce qu'il y a deux Antoine sur trois personnes, ça va être compliqué. T'avais fait celui à Prague aussi.
Oui, c'est ça, c'est Prague, Bratislava et Brno avec Adrien et Damien.
Et donc cette fois-ci, ce sont les utilisateurs du très connu réseau social Twitter qui ont voté pour le lieu du football ski trip. Et messieurs, où est-ce que vous êtes partis donc cet été?
Eh bien, l'écrasante majorité, les lecteurs ont décidé de nous envoyer dans le sud des Balkans. On avait laissé une zone géographique assez large entre l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, le Kosovo, voire la Bosnie ou la Serbie. On s'est concentré plus particulièrement sur trois pays, la Macédoine, le Kosovo et la Serbie.
Les twittos vous ont envoyé là-bas alors qu'ils avaient le choix entre la Bulgarie, les pays baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, et un voyage de Iași, donc en Roumanie, jusqu'à Odessa, en Ukraine. Est-ce que quand notre community manager avait posté ce sondage, est-ce que vous aviez une préférence ou pas du tout?
Alors oui, c'était plus, on était plus parti pour tout ce qui était, on avait bien voulu, on était bien parti sur le sud des Balkans où Iași, Odessa nous plaisait pas mal. Après, c'était une discussion qu'on avait tous les quatre, tous les trois, pardon, sur les futures destinations et partir dans les quatre pays nous plaisait bien.
Damien et l'autre Antoine, vous n'avez pas de préférence non plus?
Moi, c'était plutôt ouais sud des Balkans ou après Bulgarie. C'est j'aurais bien aimé y aller aussi parce que le pays est grand, il y a une culture foot qui est intéressante. Mais au final, avec ce qu'on a fait, je regrette pas du tout parce que j'ai découvert un pays, la Macédoine, que je connaissais pas. Parce que je précise quand même que moi, je suis resté qu'en Macédoine pour j'ai dû partir à la fin du trajet en Macédoine et alors que les deux autres sont restés, ont fait le Kosovo et la Serbie. Donc moi j'ai fait que la Macédoine et je connaissais pas du tout le football de ce pays au final et j'ai appris tellement de choses intéressantes que ça aurait pas pu être mieux finalement.
Après, on sait très bien que voilà les urnes du sondage Football Ski étaient aussi bourrées que des rédacteurs Football Ski un samedi soir à Skopje.
Oui, enfin, être bourré un samedi soir à Skopje, c'est assez difficile quand on sait que les bars ferment à 1h du matin, mais on
Une
a essayé, on a
vie
essayé.
nocturne plutôt calme, ce qui participe
Ouais,
du
on peut
vivre
pas
qui est
dire qu'il y
autour de
avait
nous.
trop d'ambiance dans les soirées à Skopje. Même c'était le vendredi soir, je crois, on avait tenté, mais non, il y avait pas vraiment d'ambiance.
Ah, c'est ça. C'est une ville très très agréable du coup, très calme et très sympa à vivre, je pense, en journée. Mais c'est vrai que si on veut un peu plus s'amuser en soirée, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, on n'a pas trop compris, puisque dans l'avion qui nous emmenait de Paris-Beauvais à Skopje avec Damien, on a pu découvrir qu'il y a des Français qui partent apparemment faire des enterrements de vie de garçon à Skopje,
Des Lensois.
en chantant des chants de Vert Silence dans l'avion. Donc on n'a pas pu garder contact malheureusement, mais je pense que ils ont dû vivre quelque chose d'assez formidable aussi.
En tout cas, s'ils écoutent notre podcast, on les salue, les supporters lensois qui doivent un peu déprimer en ce moment, mais peut-être que ce podcast les aidera à relever la
À
tête.
sécher leurs larmes. Voilà. On les salue.
Avant de rentrer dans les détails du voyage en lui-même, on va causer un peu de sa préparation, les dessous de ce football ski trip. Et la première question, assez simple, hein, pourquoi la Macédoine principalement? Puisque voilà, l'intitulé du lieu disait Balkans du Sud, ça laissait, voilà, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ça laissait une large portion d'Europe. Pourquoi justement la Macédoine?
Pourquoi la Macédoine? Parce que c'est un pays où c'est un peu intéressé, penché sur tous les calendriers qu'on pouvait avoir, parce que dans les Balkans, il faut savoir que y a la fâcheuse habitude dans les Balkans du Sud d'avoir tous les matchs de la même journée en même temps. Donc c'était un peu compliqué si on voulait voir pas mal de matchs de football. Et la Macédoine, c'était l'un des rares pays à avoir un match le samedi, un le dimanche, et la possibilité d'avoir également des compétitions, des matchs européens. Donc on est parti un peu pour ça. Et puis c'est un
Avec la
pays,
coupe en semaine aussi.
voilà, avec la coupe en milieu de semaine. Donc ça nous faisait pas mal de matchs sur place, donc vraiment de quoi bien profiter vacances.
Ça. Puis on a vu qu'on était assez chanceux puisque il y avait deux clubs qui atteignaient
C'est ça.
les barrages d'Europa League. C'est quelque chose qui était quasiment jamais arrivé dans leur histoire, je crois. Donc le Shkendia, Tetovo et le Skopje. Donc voilà, ça nous a complètement conforté dans l'idée qu'il fallait rester en Macédoine.
En plus, avec des adversaires respectifs qui étaient plutôt intéressants. Voilà, c'était ouais. Milan pour le Shkendia et Fenerbahçe pour le Vardar, si je ne me trompe pas.
Mmh. C'est ça.
Donc, ouais, niveau ambiance et niveau prestige, c'est quand même c'est en imposé.
Ouais, c'est sûr, parce que le Vardar en championnat, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux au niveau ambiance, mais après en Coupe d'Europe, ça reste quand même autre chose.
Ouais, c'est un peu ce qui caractérise le football de l'Est, hein, les grosses ambiances en Coupe d'Europe, alors qu'en championnat, ça peut ne pas être exceptionnel, mais généralement en Coupe d'Europe, ça
envoie. Ouais, ça dépend, mais là avec le Vardar, c'est vraiment presque caricatural, parce qu'en championnat, ça doit pas dépasser les 1000 spectateurs. Et il y a vraiment pas d'ambiance et il se passe pas grand chose. Alors qu'en Coupe d'Europe, bon, le stade qui est vraiment très grand n'est pas plein, bien sûr, mais ça chante, il y a quand même une ambiance qui est vraiment chaude. Et avec, je sais pas combien de spectateurs, parce qu'il y avait beaucoup de Turcs aussi, là, notamment, mais il doit y avoir 15-20 000 supporters et qui sont bien chauffés, bien, bien chauds. Donc ça donne une belle ambiance en Coupe d'Europe.
Ouais. Et en plus, je crois que...
On était surpris du nombre de gens pour le match du Vardar qui avaient justement le maillot du Vardar Skopje sur les épaules. Je pense qu'ils avaient peut-être acheté quelques jours avant, mais ça donnait vraiment l'impression quand même que la ville se mobilisait pour cet événement-là. C'était pas quelque chose qu'on avait ressenti à Tbilissi, par exemple, l'an dernier, ou même pour un match de barrage qu'ils n'avaient pas atteint depuis 10 ans contre le PAOK Salonique. Le stade était à 30% plein, quoi.
Et pourtant, je crois que le prix des billets était assez élevé, non?
En fait, le prix des billets pour le Vardar était avant notre départ était estimé à plus de 30 euros. Donc quand on a su ça, on s'est dit bon, on va peut-être pas finalement voir le match parce que 30 euros, ça fait quand même beaucoup, même si c'est un match de barrage. Et puis il y a eu beaucoup de protestations venant des groupes de supporters, principalement les comités qui sont les ultras du club, qui ont même failli engendrer une démission du président. Et le prix des billets est descendu à 4 euros. Donc voilà, on a sauté sur l'occasion et on allait voir le match.
Ouais, et d'ailleurs, le président a plus ou moins démissionné. On nous avait dit qu'il avait démissionné et qu'il était parti vraiment énervé parce que les gens le comprenaient pas, les supporters le comprenaient pas. Et après, il aurait aussi démissionné du poste parce qu'il est aussi directeur du club de handball. Donc c'est le même club, mais la section handball qui a battu le PSG d'ailleurs l'an dernier. Et puis après, finalement, il est revenu et effectivement, le prix des places a baissé. Donc une histoire un petit peu bizarre à ce niveau-là.
Une histoire bien football de l'Est comme on les aime.
Et ça, sachant que 32 euros, c'est quand on sait que le salaire moyen en Macédoine c'est pas plus de 300 euros, on se disait que déjà que le stade aurait du mal à être plein, alors là on aurait 500 personnes quoi qui paieraient un tel prix pour ce match.
Que des supporters du Fenerbahçe.
Mmh. Du coup, maintenant que donc vous savez où vous allez, comment est-ce que vous faites votre programme? Quelles sont les étapes clés un peu de la préparation de ce football ski trip? Est-ce que vous faites une sorte de liste avec les lieux et les stades intéressants et voilà, vous regardez votre programme et vous regardez qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire?
On regarde les calendriers, ça pleuve déjà. Sachant que dans ces pays-là, ils aiment bien dévoiler le calendrier peut-être 3 semaines, voire 2 semaines à l'avance. Donc, ce qui laisse le petit suspense jusqu'au bout pour savoir quel jour on peut avoir tel match, quel jour on peut aller dans telle ville, s'il y a tel club qui joue. Mais on a été vraiment assez chanceux là-dessus, puisque une des premières choses qu'on a vues, c'est qu'on allait assister au derby de Macédoine dès notre premier jour, dès notre arrivée. Donc entre le Shkendia et le Vardar Skopje, entre un club albanais et un club, du pays des Slavo-Macédoniens, à Tetovo, donc dans le chaudron albanais de Tetovo. Et on n'a pas été déçus là-dessus. Et après, voilà, tout s'organise également. Suivant voilà les matchs qu'on peut avoir le week-end, certains matchs qu'on peut avoir en semaine, et on essaie de broder autour de ça.
Et après on essaie aussi de voir là où il peut y avoir des ambiances intéressantes. Donc par exemple Antoine J qui regardait pas mal de résumés de matchs avait vu qu'à Chkoupi il y avait une ambiance assez intéressante et tout. Donc nous ça nous a motivé à voir comment ça se passait là-bas plutôt qu'au Rabochniki par exemple où on savait qu'il y avait zéro ambiance, qu'il y avait pas de supporters, rien. Donc dans ces cas-là effectivement on regarde un petit peu là où il y a des histoires à raconter, là où on peut trouver quelque chose. et pour pouvoir ensuite avoir du contenu et trouver sur place. Puis dès qu'on trouve une idée où on voit qu'il y a quand même quelque chose à dire sur un club, on va regarder un peu les communautés Facebook, voire Instagram, où on va contacter des personnes du club afin de les voir, de les rencontrer et d'avoir du contenu pour nos articles.
Après, c'est vrai que cette année, même pour les autres footballs cités qu'on a pu faire avant, on avait quand même pas mal de chance sur les calendriers. Donc, même s'ils sont sortis que quelques semaines avant notre départ, ça s'est vraiment bien goupillé. On a eu la chance de voir plusieurs matchs européens et puis les matchs s'enchaînaient bien. On aurait pu quasiment faire un match par jour si on voulait. Donc ça a vraiment permis de vivre pleinement le foot dans cette région.
C'est ça. Dire, on s'en sort à 11 matchs en 14 jours. C'est quand même plutôt correct.
C'est un bon ratio.
Au final, on a un peu plus haut à Belgrade.
Est-ce qu'il y a eu deux matchs par jour, par exemple?
Pour moi, oui, seulement bah, l'avant-dernier jour à Belgrade. Malheureusement, Antoine n'a pas voulu ou n'a pas pu se joindre à moi. Enfin, si, il s'est joint à la première période d'un match du. Comment ça s'appelle déjà? Du FK. Du GSP Paulette Dordcheul, qui est le club des chauffeurs de bus, enfin, de la régie de transport de la ville de Belgrade, qui a un stade magnifique au pied des remparts de la vieille ville. Franchement, on ne s'imaginait pas du tout ça. Sauf qu'il faisait un espèce de cagnard absolument énorme. Et Antoine a dû baisser les bras et rentrer à l'auberge, à essayer de couver une fièvre assez importante depuis 2 jours. Donc j'avais fait ce match-là, plus un match à Zemun, un quartier assez à part à Belgrade. Et c'était le seul jour où on a pu faire 2 matchs. Même ce jour-là, on aurait dû faire 3 matchs même, parce qu'il y avait un autre match à Voždovac, qui s'appelle, qui a d'ailleurs un stade sur un centre commercial dans le sud de la capitale de Belgrade. Mais bon, ça faisait une espèce de déplacement encore d'1 heure 30 depuis Zemun pour y aller. Je voulais pas abandonner Antoine à l'auberge, on savait pas ce qui pouvait lui arriver.
Elle est belle cette solidarité entre rédacteurs. Justement, on parle voilà de préparation. Est-ce que tout est planifié avant le début ou vous adaptez sur le terrain? Est-ce que là, vous voyez un match, vous y allez, vous entendez parler de quelque chose avec le bouche à oreille et boum, vous vous adaptez en fonction. En gros, la question, c'est est-ce que vous comptez sur la chance des rencontres ou voilà, si vous en avez pas. Est-ce que vous avez quand même assez de contenu pour faire plusieurs articles sur le site?
C'est un peu les deux en fait. Par exemple, on a eu le jeudi, on a eu le match du Vardar Skopje contre Fenerbahçe, où on s'est rendu au rendez-vous au parc avec les ultras. Bah là, on a pu discuter avec trois jeunes un peu par hasard sur le Vardar Skopje. On a pu apprendre pas mal de choses sur la relation entre le club et ses supporters et la place qu'occupe le Vardar Skopje en Macédoine. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu de chance, comme ça on tombe par hasard sur des gens, on tape la
Tomber sur des
discute.
gens sympas quand même, puisque heureusement qu'on est arrivé un peu en avance, on avait pu discuter avec ces jeunes-là qui connaissaient apparemment quand même quelques gens bien placés dans le groupe, puisque on se demandait d'ailleurs, au début il y avait peut-être 20 personnes pendant 1 heure qui attendaient là, on disait bon, il n'y a pas d'ambiance. Après, il y a une espèce de gros rassemblement avec les chants, avec les fumigènes, avec les drapeaux. Donc forcément, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre des photos, on veut prendre des vidéos. Avant qu'un charmant membre de la sécurité du groupe, je pense, manque d'éclater mon portable en pensant que j'étais, je sais pas, peut-être un flic, un indique, quelqu'un comme ça. Voilà. Mais dès que quelques personnes qui avaient bien vu qu'on était là depuis le début et qu'on discutait avec les gens, qui avaient aucun souci, donc ils sont vite venus calmer. Ils voulaient même nous offrir des places après ça pour venir se fighter avec les flics dans les tribunes pendant le match contre Fenerbahçe. C'était ça, ça,
Moi, je
ça,
dirais.
ça donne
Moi,
des
je dirais quand même que la part d'inconnu est assez importante dans tous nos trips parce que, par exemple, on s'imaginait pas aller à Kitchevo et en fait, c'est en interviewant Emmanuel Mbella qu'on a rencontré son agent, qu'on connaissait pas du tout, c'est qui il s'est avéré que c'était un franco-macédonien d'ethnie albanaise et il nous a invités à Kitchevo voir son académie et le club qu'il venait de racheter. Donc ça, par exemple, c'était absolument pas prévu. Après, il y a quand même pas mal d'inconnus. L'Académie à Pandef, on savait pas quel jour on allait le faire, donc ça pouvait aussi décaler. Après, on hésitait à aller voir aussi un match à Ohrid. On avait pas mal d'idées qu'on n'a pas pu faire, Donc, après, la part d'inconnu reste quand même assez importante.
Ce qui était bien, c'est qu'on avait plus ou moins un plan. On avait plus ou moins un plan A, un plan B, voire un plan C pour chaque jour. On avait vraiment, suivant les calendriers, suivant les contacts qu'on avait pu avoir avant et pendant, on se disait, il y a peu de jours, on aurait été en rade totale d'activité à faire là-bas.
Est-ce que c'est pas justement cet inconnu qui fait la beauté de ces football ski trip?
Clairement, là, je prends l'exemple de l'année dernière quand on est allé voir un Bilagoris Ubidi en plein dimanche après-midi dans la ville de naissance de Staline. On est tombé sur les ultras, les Abrax Ubidi, et puis c'est là qu'une passion est née.
Exactement. Quand on avait discuté avec les fondateurs de la fondation Arvelazé qui vient en aide aux jeunes de Géorgie dans des régions reculées, et où j'avais juste demandé si je pouvais peut-être assister à leur match d'entraînement, où je m'étais retrouvé au fin fond des montagnes à discuter avec des gamins réfugiés de la guerre de Tchétchénie du Sud. Voilà, c'est ce genre d'aventure qui nous arrive aussi.
Et justement, niveau communication, ça parle bien, plutôt bien anglais en Macédoine, ou ça se bat avec ses moyens?
Ah oui. Franchement. Non, franchement, on a été vraiment surpris. On pensait pas que les gens parlent aussi bien anglais, mais on a eu quasiment aucun problème de communication. Tout le monde parlait vraiment bien anglais, donc mieux qu'en France d'ailleurs, je pense. Donc franchement, il y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là.
Est-ce que le football est un langage universel? C'est un peu la question qu'on se pose.
Ah oui.
Nous quand on parle à des gens de foot en général, on cherche un peu au-delà du foot, donc c'est quand même mieux si on peut se comprendre et parler une langue commune. Et alors qu'en Géorgie, par exemple, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de trouver des personnes qui parlaient anglais et d'avoir des informations du coup sur les clubs, sur les joueurs ou tout ce qu'on recherche.
Voilà, toujours sur la préparation. Est-ce que vous aviez des contacts sur place avant d'y aller?
Il y avait Emmanuel Mbella qu'on avait contacté en fin de saison de l'année dernière en France. On avait plus ou moins préparé le terrain un peu à droite à gauche pour essayer d'avoir déjà quelques petits contacts. Donc Emmanuel Mbella, qui est un joueur du Choupi, qu'on avait contacté, qui nous avait répondu très gentiment qu'il n'y avait aucun souci. On le prévenait quand on était à Skopje, qu'on a arrangé une rencontre. Il y avait Damien qui, un petit peu avant le départ, a eu un contact justement d'un mec qui s'occupe du Solidarnosc.
Ouais, Alexander qui s'occupe de la communication du Solidarnosc. Il se trouve qu'il connaissait, il avait le numéro de Goran Pandev et il connaissait aussi le bras droit de Pandev. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu avoir ce rendez-vous à l'Academia. Donc ça c'était, il nous a aussi filé deux trois plans. Donc voilà, ça aussi ça a fait une partie intégrante. C'était une partie intégrante du voyage de pouvoir compter sur quelqu'un du pays qui du coup nous met en relation en disant qu'on est des personnes de confiance et qu'on est sérieux. Voilà, ça c'est vrai que parfois ça joue aussi avec certaines personnes.
Il y avait aussi avec les ultras du Scandia qu'on avait contacté directement sur la page Facebook avant de partir, et puis bien sûr Yelena Polic, hein, on a eu contact parfaitement.
On en reparlera évidemment de cette chère Yelena.
Voilà, salut.
Bon, il n'y a pas de grosse surprise, pas d'objet insolite dans vos sacs.
Non, on aurait pu ramener une batte de baseball, un truc comme ça, pour se mêler avec les ultras du Scandia ou du Vardar, mais on a préféré éviter.
On a des sacs en cabine, donc les points américains, non, ça passe pas trop au contrôle à l'aéroport.
Niveau budget, est-ce que vous aviez une limite?
C'était divisé par trois, en fait. Damien tenait régulièrement un petit livret de compte sur son téléphone, et puis voilà, à chaque fois c'était un différent qui payait le repas, et puis à la fin du séjour, ouais, on avait à peu près tous dépensé la même chose. On avait coûté l'apport en soi.
Après, ce qui était bien quand même à ce niveau-là, c'est qu'on s'est fait quand même bien régaler par toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui à chaque fois nous payaient tout, nous payaient les boissons, la nourriture. Donc même qui voulait nous héberger à certains moments, donc non, franchement, par rapport à ça, on a quand même bien réduit les frais, parce que chaque fois qu'on rencontrait une personne dans le cadre du football, à chaque fois on avait tout payé, donc c'était assez chouette.
Ah, justement, vous n'avez pas eu de soucis au niveau des gens, les gens étaient réceptifs à votre intérêt pour le football macédonien, il n'y a pas eu de Personne vous a refusé un accès quelconque ou...
Non, pas du tout. Les gens étaient même surpris que trois Français se retrouvent à Kishevo un mercredi après-midi à regarder un match de foot, un coup de Macédoine. Mais non, les gens étaient surpris, mais étaient très accueillants. Très accueillants. Ouais.
Et pour, par exemple, une des personnes qui s'occupe de l'Academia Pandef, je pensais vraiment que des journalistes étrangers étaient venus voir ce qui se passait, parce que c'est quand même un projet qui attire. Et quand je pose la question à la personne, il me répond que oui, il y a des gens qui sont venus voir, des journalistes de Skopje. En fait, c'était que des Macédoniens. Je lui dis non, mais des étrangers. Et puis il avait peur de trop comprendre, et il me disait non, Skopje. Enfin, que vraiment, c'était que des. Apparemment, il n'y a pas eu d'étrangers qui se sont intéressés au projet, ce qui m'a quand même fortement étonné. Donc apparemment oui, il y a quand même pas grand monde qui s'intéresse non plus à ce qui se passe dans le football macédonien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a été aussi bien reçu par vraiment tout le monde d'ailleurs. C'est parce que on est probablement les seuls étrangers à s'intéresser à tout ça, à venir voir de près ce qui se passe.
Ouais, sur ce point d'ailleurs, ce qui est étonnant, ce qu'on a ressenti, Antoine, c'était au Kosovo. Justement, on était même surpris de voir que les gens étaient pas forcément surpris de voir des étrangers s'intéresser à leur club au football local. Alors que pourtant, le premier match qu'on a fait, par exemple, on a débarqué dans la tribune de presse du stade du Feronikeli Drenas, qui est un petit stade peut-être de 2000 places à 15 km de Pristina. Bon, ok, pour la première journée de championnat, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait deux caméramans de télévision kosovars. Et on nous a fait rentrer sans problème, etc. Par contre, ouais, on était rentrés, on se posait, on regardait le match et tout, mais il n'y a pas plus d'intérêt que ça pour savoir qu'est-ce que deux Français comme nous venaient faire pour s'intéresser au foot. C'est limite si on gênait pas,
quoi. Surtout qu'on n'avait pas les têtes des expats, quoi. Donc voilà, on ne peut pas se passer comme étant des Kosovars habitant en France et rentrant au pays pour les vacances.
Fallait que je sois là pour ça.
Voilà, ouais, parce que voilà, Damien ressemble à un Albanais.
D'après le fils du président de Skopje.
C'était pour ça que tu as eu des prix dans le bazar de Skopje après aussi pour tes baskets. J'ai parti de la famille quasiment.
C'est ça.
Voilà, justement, on parlait de la Macédoine et de l'essor un peu du football macédonien. Qui a connu quand même un super été, même pas au niveau que de l'Europa League, hein, mais voilà, les espoirs macédoniens sont qualifiés pour l'Euro U21, ils ont d'ailleurs fait quelques bonnes performances. Est-ce que vous avez remarqué ou senti qu'il y avait vraiment une envie de développement du football macédonien par rapport aux personnes que vous avez interrogées?
Pas forcément au niveau des personnes interrogées, mais rien par exemple quand on est allé voir le match du Skopje contre l'Academia Pandev. On a payé un billet à l'entrée et c'était la première fois qu'il y avait une billetterie, quoi. Ils n'avaient jamais fait ça avant. Donc c'était vraiment, il y a vraiment une volonté de développer le football, que ce soit financièrement, mais également avec des infrastructures, avec les supporters. Donc, il y a une volonté de progrès, même si elle va prendre beaucoup de temps, bien sûr, mais tu vois qu'il y a quand même un bon début de progrès, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place.
L'exemple de la Casilla, ça doit être quand même assez criant à ce niveau-là. C'est un projet genre Gheorghe Hagi avec le Vitorul, quoi.
Oui, c'est ça. Bon, mais ça, après, c'est vrai que c'est Pandef a décidé de financer à lui tout seul un club et de faire monter en compétence les jeunes joueurs macédoniens. Donc, c'est tout à son honneur. Mais est-ce qu'on peut parler d'une volonté globale d'améliorer le football en Macédoine? Alors, on n'a rencontré personne de la fédération. Le projet Academia Pandev, c'est quand même un projet qui est solo, donc qui est en plus situé à Strumica, donc c'est, on va pas dire que c'est en plein cœur de la Macédoine non plus. Donc une volonté, on n'est pas non plus certain, car on voit pas grand-chose au niveau des infrastructures. Donc au niveau des clubs, il y en a pas l'impression non plus qu'il y ait grand chose qui bouge, à part au Shkandia, mais là c'est encore différent parce que eux les Macédoniens, ils veulent pas trop en entendre parler. Donc il y a vu qu'il y a deux rivalités très fortes entre les deux ennemis que sont les Albanais et les Slavo-Macédoniens, ça fait qu'au final, on peut pas avoir quelque chose de lisse et un développement construit avec toutes les parties qui seraient d'accord.
Niveau ambiance maintenant, vous avez fait le premier match du Scandia avec les balistettes, c'est ça?
Ouais, exactement.
Ça va, ça envoie, c'est pas
Le
trop
premier
mal?
jour, le... Ah, ça envoie bien, ouais, le lendemain de notre arrivée. Faut dire qu'on avait donc on avait contacté le responsable de la page Facebook des balistettes avant cela. Donc on a vraiment passé la journée tête au haut, puisqu'on a discuté avec lui pendant 1 heure ou 2 heures, nous emmener au restaurant du club. Quelqu'un du club également qui est venu nous parler de l'histoire du Scandia, qui nous a fait une présentation, voilà, en long large de tout ça, sachant qu'il y avait le match justement contre Milan quelques jours après, un gros derby contre le Vardar à peine 2 heures avant. Donc vraiment, on a été vraiment bien reçus, parce que c'est pas forcément évident pour eux de prendre du temps pour nous. Et également, voilà, donc tout le match dans le parcage avec les balistettes, avec fumigène, avec tifo, avec lancer de rouleaux de papier sur la pelouse, avec un magnifique mur d'écharpe. Je me rappellerai ça, le mur d'écharpe qui devait servir à quelque chose de rouge ou noir. Donc il y avait des gens qui avaient ramené un carton Jack Daniels, par exemple, qu'ils n'avaient pas pu s'acheter de maillot. C'était leur t-shirt rouge, simplement, qui faisait ça. C'était assez route.
Personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'atmosphère à Scoopy parce que c'est un club. Alors personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant de venir. Et en fait, il y avait quand même 4 000 spectateurs en sachant qu'il n'y a qu'une seule tribune. Et on sentait les 4 000 personnes à fond derrière l'équipe. Il y avait aussi 1 millier d'ultras, donc ça chantait pas mal. Et pour un tout petit club comme ça qui joue pas du tout le tableau, qui joue même le maintien, franchement, c'était une super atmosphère. Tout le monde était à fond, donc ça faisait super plaisir. Nous-mêmes, on était à fond, on suivait un petit peu cette ambiance. Donc c'était vraiment chouette. Après là, on parle de deux clubs albanais qui sont d'ailleurs les deux clubs les plus populaires du pays où il y a les meilleures ambiances. Après le Vardar, comme on disait tout à l'heure, c'est plus en fonction de l'importance du match. Et après, il y a un autre club qu'on n'a pas pu voir malheureusement, c'est le Pellister Bitola où il y a une bonne ambiance aussi. Et après, pour tout ce qui est du reste, faut pas espérer des grosses ambiances. C'est
Après,
plus des...
on n'a pas pu tester quand même l'ambiance mise par les fishermen du lac d'Auride. On voulait se faire un match de coupe à Auride avec un groupe ultra qui avait un nom assez évocateur. Donc, on
Ils ont
réservera
fait
notre avis là-dessus.
forfait d'ailleurs de ce soir-là, ils ont pas joué.
Ouais. Mais c'est vrai que après tout ce qu'on a pu comprendre, c'est que les Slavo-Macédoniens étaient pas des gros fans de football et qu'il n'y avait pas une culture foot extraordinaire. Donc ça explique pourquoi c'est les Albanais de Macédoine qui ont les meilleures atmosphères, alors que les clubs plus Slavo-Macédoniens, on retrouve pas vraiment les mêmes atmosphères dans ces clubs-là. Donc après à Skopje, faut savoir que le FK Skopje, le Rabotchniki notamment, il y a zéro ambiance. Donc ça faut le savoir aussi. Donc on va dire que la Macédoine, on a fait les bons stades, on est allé voir les bons matchs, mais niveau ambiance, il y a du très bon comme il y a du très mauvais.
Après, je rejoins un peu sur ce qu'a dit Damien par rapport aux ambiances entre le club albanais et le club macédonien. Bien sûr, tout ça, c'est aussi une grande histoire, une grosse partie de l'histoire politique, géopolitique de la région. C'est pour les supporters du Scandia, c'est la fierté de supporter le club, de pouvoir sortir le drapeau albanais. Quand on a vu le match du Scandia, il y avait même des capots du club de Pristina qui s'est déplacé. Donc il y a vraiment des Albanais qui viennent de partout, d'Albanie, de Kosovo, des pays voisins qui se déplacent pour voir les matchs du club albanais en Macédoine.
Et on parle souvent justement de politique quand on mentionne ces pays, j'inclus le Kosovo là pour le coup. Est-ce que via, voilà, par exemple des graffitis, des chants, est-ce que vous avez vraiment senti cette politisation voilà, de ces deux pays, Macédoine et Kosovo?
Ouais, bien sûr, il y avait les graffitis CK dans la quasi-totalité des stades dans les deux stades qu'on a pu voir au Kosovo.
Un beau graffiti, Chair is not Macedonia. Chair, c'est le nom du quartier où le FK Skopje a son stade, qui est vraiment vraiment de la part, dans la partie albanaise de Skopje. C'est assez frappant d'ailleurs, la ville est vraiment coupée par la rivière au milieu.
C'est un quartier autonome d'ailleurs.
Voilà, c'est une des mairies autonomes de la ville de Skopje en elle-même, qui est vraiment, voilà, qui a vraiment une ambiance particulière, différente de celle de l'autre partie de Skopje.
Donc ouais, la politique est vraiment présente dans l'État. Même quand on est allé voir le Skandia jouer, il y avait des chants en l'honneur du Kosovo qui étaient chantés depuis les tribunes. Quand il y a des Skandia Vardar, il y a souvent des chants anti-macédoniens qui sont chantés depuis les tribunes des balistettes. Bon, on n'a pas forcément compris tous les chants, voilà. Mais c'est souvent des matchs très tendus, que ce soit sur le terrain, mais également en tribune, avec la tension géopolitique de la région.
Ouais. Puis même simplement en Serbie, le match d'Europa League qu'on a vu contre le Krasnodar, le tifo déployé par les déliés dans la tribune, qui était un hymne à l'amour, à l'amitié serbo-russe, plus avec un magnifique chant UEFA Mafia, Kosovo et Serbia. Voilà, on peut vraiment le retrouver à chaque coin de stade.
En tout cas, en Macédoine, ce qui est sûr, c'est que tout le monde nous parlait politique, même des gamins de 8 ans. Donc, c'est vraiment présent partout.
Voilà. Tout en nous disant, non, ça c'est de la politique, j'ai pas envie d'en parler.
Oui, toujours. Oui.
Donc ensuite, vous allez vous faites une bonne semaine en Macédoine, c'est ça?
Une semaine.
Ça, on fait une semaine. Okay.
Et donc, Damien, tu quittes l'aventure, tel un aventurier, voilà, de Koh-Lanta. Denis Brognard qui vient te voir et qui te demande ton flambeau et qui t'élimine.
C'est ça.
Il repart avec une veste de handball de Vardar.
Ouais, une belle veste. Comme ça, je fais petit dealer de quartier.
Le Vardar qui, voilà, en handball, c'est un cadeau, hein, du handball européen.
Ouais. Alors, en fait, pour l'anecdote, on cherchait absolument un fan shop du Vardar et en ville, il n'y en avait pas du tout. On est tombé dans un magasin de sport d'un centre commercial, je sais plus le nom. Et en fait, on a demandé, du coup, je crois qu'il y avait 2-3 maillots du Vardar, mais pas grand chose.
Et c'était c'était un maillot du handball et parfois d'autres années. Enfin, c'était
assez. Ouais, bien. C'était des vieux maillots et pas forcément de notre taille en plus, donc c'était pas très chouette. Et on a demandé où on pouvait trouver un fan shop, des maillots, enfin n'importe quoi. Et la personne nous a dit à l'hôtel Russia, qui était bien loin d'ailleurs, qui était pas du tout en centre-ville. Donc le lendemain, on a pris le taxi, on est allé à l'hôtel Russia où il y avait effectivement le fan shop du Vardar, à un endroit complètement introuvable.
À côté de la salle en fait où joue le Vardar handball. Donc c'est vraiment le shop du club Vardar. Et de toutes les sections qui sont rattachées.
Ouais, c'est ça. Mais quand t'es fan de foot et que tu veux un produit dérivé du club de foot, là, tu penserais jamais à aller le chercher là, ça c'est sûr.
Non, c'est clair.
Après, il se fera arnaquer par le taxi d'ailleurs.
Ouais, heureusement que vous connaissez bien Skopje, parce qu'on a décidé de pas lui lâcher le prix qu'il lui demandait, parce que on savait très bien que c'était deux fois le prix que ça avait coûté.
Ouais, parce qu'il faut savoir ce qu'est-ce que. Skopje, la quasi-majorité des chauffeurs de taxi sont réglo avec des compteurs, mais il y en a quand même quelques-uns qui usent de malice quand ils voient des étrangers. On s'est fait avoir une fois, mais on n'est pas deux.
Et justement, au niveau boutique, le pourcentage du handball et de foot est assez égal, ou on sent qu'il y a vraiment une importance du handball plus que du foot?
Dans mes souvenirs, c'était 70-75% handball, mais peut-être que je me trompe.
Moi, ça m'a l'air plutôt
ouais,
correct.
C'est moitié-moitié. Après, il ne restait plus grand-chose, c'est vrai, en maillot de foot, il n'y avait pas un choix énorme, mais avec pas mal de produits dérivés, que ce soit écharpe, petit mug, fanion, il y avait quand même pas mal de matos.
Non, c'était un vrai shop au standard, vraiment au standard européen. Peut-être que justement, le match contre Fenerbahçe avant était passé par là et que les stocks avaient été dévalisés à ce moment-là, parce que vraiment, ce qu'on a vu au stade, et c'était assez important, avec vraiment des maillots de la saison, donc peut-être qui expliquait ça.
Et justement, est-ce que vous avez pu acheter un maillot de Boban Nikolov, par exemple, l'excellent Boban Nikolov?
Alors, on n'a pas pu acheter de maillot floqué, parce qu'il fallait attendre, deux semaines entre l'achat et le flocage possible par la boutique, donc on a acheté un maillot... Un maillot vierge.
Et niveau goodies, je crois que vous avez, en plus de quelques écharpes et autres du Vardar, vous avez été pas mal bien servi à l'Académie à Pandef, non?
Ah oui, on a été servi comme des princes. On avait notre petit sac en plastique, un sac en carton Pandef, avec un petit stylo Pandef, un petit fanion Pandef, un petit bloc-notes pandef et une photo dédicacée de la légende.
Et pour en revenir au maillot, une anecdote à ce sujet, Antoine G, dans le stade de Scoopy, voyait des mecs avec des maillots du club. Et donc il a demandé où on pouvait en trouver, parce qu'on voyait pas de fan shop et on pensait pas pouvoir en trouver. Donc il leur demande où les trouver. Et puis les deux gars lui répondent que enfin là ils savent pas, mais ils peuvent demander à quelqu'un d'autre. Donc ils ont pris notre numéro, puis finalement ils nous ont jamais recontacté d'ailleurs par la suite.
Et enfin voilà, les gens ont lâché leur WhatsApp tranquille. Ils étaient quand même prêts à nous aider. Je pense que c'était de bonne volonté, mais je pense que c'était quand même compliqué de trouver un maillot, sachant que les joueurs du club en ont un tous les 6 mois, enfin ou deux tous les 6 mois. Donc ça m'étonne pas non plus qu'ils aient pas pu nous en trouver.
Est-ce qu'il laisse un potentiel de développement assez important, puisque ils vendent absolument rien, il n'y a pas de produits dérivés, alors qu'il y a quand même une belle ferveur derrière le club. Donc je pense que s'il y avait un fan shop ou s'il commençait à vendre quelque chose, il y aurait clairement une possibilité de développement derrière.
Complètement. Bah déjà le fait qu'ils se rendent compte que mettre une billetterie à l'entrée, ça peut être une bonne chose pour le développement du club juste cette année. Voilà, ça montre qu'ils sont pas encore dans cette idée-là.
Et à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des Il y a de quoi manger et boire au stade en Macédoine.
Si on aime les graines de tournesol et les cacahuètes, on est servi. On a tout ce qu'il faut. C'est vrai que on n'a pas eu de grosses buvettes ou quoi que ce soit, même au stade du Vardar, même si on a vu des gens avec des verres de coca au loin. Mais sinon, ouais, il y a les petits vendeurs, les petits papis qui se déplacent avec leur panier avec des graines de tournesol, avec des arachides. Donc, on a quand même moyen d'un petit peu manger pendant les matchs.
Et donc après la Macédoine, vous allez au Kosovo, donc sans Damien, comme on le disait tout à l'heure. Et vous faites une infidélité à Footballski, puisque vous allez voir, je crois que le premier match de l'histoire de l'équipe nationale du Kosovo au basket.
Exactement. On a découvert ça, mais vraiment, ouais, dans les jours précédents notre arrivée au Kosovo, qu'il y avait ce match vraiment important, qui jouait donc à Pristina, à deux, vraiment pas très loin de notre hôtel. Donc ni une ni deux, le matin, avant d'aller voir notre match Ferronichelli justement, on va acheter nos billets devant le monument Newborn, qui est un des monuments symboliques de la ville de Pristina, qui célèbre l'indépendance du Kosovo. Et on a assisté, ouais, à un moment d'histoire du Kosovo le soir, avec cette qualification de l'équipe nationale de basket du Kosovo, qui vint à l'Estonie, donc un match très basket-ski, qui gagne le droit d'affronter les meilleures nations européennes pour se qualifier peut-être dans d'autres compétitions.
Et là aussi, niveau ambiance, surtout dans une salle, j'imagine que ça, c'était pas mal.
Ah oui, ça envoyait, c'était magnifique. C'était une très belle ambiance, tout le public était répondu présent, tout le public chantait, donc ça, on a vraiment vécu un beau moment.
Ah ouais, avec les tap-tap, avec voilà, tu voyais qu'ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Il y a quand même quelques moyens, il y avait vraiment quelques goodies pour que les spectateurs fassent du bruit, mais voilà. Enfin, après, il faut imaginer que c'est la salle nationale, c'est peut-être le gymnase de Brest, du Brest Handball, quoi. C'est peut-être 2000 places assises, des bancs en béton, les murs derrière, c'est les parpaings encore apparents, donc ça rajoute
les tribunes VIP légèrement en hauteur avec 50 places. Ouais. D'ailleurs, le sponsor principal du match, c'était un sponsor français, puisque la BNP Paribas qui avait fourni les petits tap-tap.
Mais on avait des chiffres.
Vous étiez un peu à domicile.
Oui, on avait des chiffres gratuits aussi. Ça, c'était un grand moment.
Ah, par contre, avant de continuer, voilà, je vais te corriger quand même sur le gymnase de Brest. Il y a quand même une nouvelle salle qui a été construite il y a quelques années qui va accueillir le championnat d'Europe de handball dans quelques temps. Donc on va se calmer là-dessus tout de suite. Hein.
L'Arena de Brest, pardon.
C'est ça, voilà. La Brest Arena.
Britannia, je ne sais pas comment il faut l'appeler.
Non. La Brest Arena, on va rester là-dessus. Ensuite, vous faites quelques matchs de D1 Kosovar aussi.
Ouais, c'est ça, pour la reprise de la saison également.
Ça joue ça... C'est comment le niveau
Ça envoie.
C'est physique.
Ah ouais.
C'est physique. Le niveau était quand même plus faible que ce qu'on a pu voir en Macédoine. Mais il y a quand même quelques joueurs qui ont du ballon, qui vont avoir du mal à être repérés parce que ils sont dans des clubs perdus au Kosovo. Mais il y a quand même pas mal de qualité. Hein, on a discuté surtout avec avec le journaliste kosovar qui a vécu quelques années en Suisse et qui parle français, qui a discuté un peu de Kosovo avec lui, il a dit qu'il y avait quand même pas mal de potentiel au Kosovo, mais qui était difficilement exploitable.
Il y a assez peu, tu vois, les équipes sont soit très jeunes, soit un peu plus âgés, finissent leur carrière, mais disons que tous les joueurs à gros potentiel kosovar, quasiment aucune chance de jouer au Kosovo, ils partent directement, je pense, dans d'autres pays. Donc, mais ça donne des matchs quand même sympas à regarder, parce qu'il y a, pour le coup, une vraie grosse ambiance. Les stades sont pas dans un bon état, mais, il y a du monde qui vient. On a vu vraiment des tribunes assez pleines pour des matchs de début de saison entre des équipes pas forcément très fortes. Mais je pense que on a quand même été bien marqué par l'échauffement de mi-temps de l'équipe qui jouait à le BSAPY. Vraiment l'entraînement que tu peux retrouver en district le dimanche matin avec un joueur de champ qui met au gardien, qui enfile les gants et les autres qui font des tirs à l'extérieur de la surface de réparation. Ça, c'était du beau football vrai, une belle séance de football quasi amateur. Ouais.
Et vous avez aussi interviewé, si je dis pas de bêtises, le président de la Fédé kosovar.
Oui, c'est ça.
Et comment vous avez justement eu son contact, comment vous avez approché la chose?
Là, tout simplement par le site, par l'adresse officielle du site de la fédération. On n'avait pas eu de réponse. Oui, on vous avait contacté, je pense, même pendant le trip, on avait l'idée de se dire pourquoi pas tenter. On a eu la réponse positive 2 ou 3 jours avant d'aller au Kosovo, donc banco. C'était un lundi matin. Voilà, il nous a accueillis vraiment sans aucun souci pendant 1 heure dans les nouveaux locaux de la fédération de football. Donc voilà, il nous a vraiment accordé le temps qu'on voulait pour nous. Et ça, on le remercie aussi.
Et donc pour être un peu plus clair, donc c'est Fadil Vokri. C'est ça, un ancien joueur professionnel, donc.
C'est ça. Voilà. Ouais, qui a un parcours assez intéressant puisqu'il a commencé au FC Pristina quand le club avait un très bon niveau en Yougoslavie. Ce qui l'a amené à jouer d'ailleurs au Partizan Belgrade. Donc, il a été peut-être le premier d'ailleurs, kosovar, elle-même le premier albanais, on va dire, à jouer dans un club de sous standing pour la Yougoslavie et de jouer pour la sélection nationale yougoslave. Ce qui lui a permis également, une fois arrivé ses 28 ans, comme beaucoup de joueurs yougoslaves, d'aller jouer en Europe. Donc il a joué à Nîmes, en France, ce qui fait que maintenant il parle bien français. Il a joué à Nîmes et il a joué après dans des basses divisions françaises à Bourges et à Montluçon, où il a fini sa carrière en faisant un peu tous les postes du club. Il a fait entraîneur de certaines catégories de jeunes, pas manager, directeur sportif, si on peut appeler ça à ce niveau-là, mais voilà, une belle carrière, et qui est rentré après au Kosovo, donc pour reprendre les rênes de la fédération une fois la guerre passée. Donc au début des années 2000, je crois qu'il a repris en 2004.
Et vous le sentez compétent? Est-ce que le discours vous a séduit? Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir du football kosovar? Si c'est lui qui est en charge des projets.
Il y a une très grande différence entre ce qu'il a dit et ce qu'on a pu voir sur le terrain et ce qu'on a surtout pu entendre par les supporters. On s'est entretenu au téléphone avec un ultra de Gilani qui habite maintenant en Allemagne et nous a parlé de beaucoup de projets, que ce soit de stades, d'infrastructures, mais la réalité n'est pas encore là, quoi. Ça prend beaucoup de temps au Kosovo. Il y a un stade le stade de Pristina qui est en train d'être totalement rénové pour pouvoir accueillir des matchs européens, puisque pour l'instant la sélection nationale ne peut que jouer en Albanie et les matchs de premier tour européen sont à Mitrovica dans le nord du pays. Il y a un début de quelques travaux, mais on est encore loin vraiment de ce qu'il a pu nous dire.
Infrastructure. Après ça, on a compris que c'était son leitmotiv. Nous l'a répété plein de fois. Je pense qu'il est de bonne volonté. Quelques jours avant qu'on vienne d'ailleurs interviewer, il accueillait le président de l'UEFA, Čeferin, à Pristina, pour faire un point sur le développement du football dans ces régions-là et discuter de tous les projets qu'ils pourraient avoir ensemble. Donc, effectivement, je pense que une des premières choses, c'est le financement des infrastructures et de tout ce qui peut avoir trait à ça. je pense qu'ils partent de, ils partent de très loin quand même au Kosovo. Donc c'est assez difficile de se faire une opinion. On est resté 4 jours là-bas. L'avenir dira comment ça se poursuivra. Mais il était assez critique d'ailleurs par rapport à la sélection nationale, aux résultats qu'ils avaient fait pendant, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a des projets, qui a des envies, qui est assez pragmatique quand même.
Et donc, après le Kosovo, donc vous faites la Serbie, surtout Belgrade hein, quand même, si je dis pas de bêtises, donc vous êtes surtout resté à Belgrade.
Voilà, c'est ça, on a déjà eu un retour, un passage assez particulier en Serbie, puisque c'est quasiment impossible de passer du Kosovo, de passer directement en Serbie depuis le Kosovo. Il y a des Français, Antoine et Damien avaient rencontré dans l'avion, qui ont tenté l'expérience et qui ont mis 12 heures pour passer la frontière. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est repassé une nuit à Skopje. Et ensuite, on est passé en Serbie. On a fait une étape à Niš où on a vu d'ailleurs un magnifique Radnički Niš contre le Mladost Ljubljana avant d'atterrir à Belgrade où on a passé les 4 derniers jours de notre voyage.
Alors justement, Maracana, notamment, ça pour un match assez prestigieux quand même, hein, le retour de l'Étoile Rouge en phase de poule d'Europa League, enfin de Coupe d'Europe en général. En éliminant donc Krasnodar, qui est une formation voilà, qui généralement arrive à aller jusqu'en phase de groupe. J'imagine que là aussi, à ce niveau-là, l'ambiance devait être incroyable.
On va pas se cacher, je crois que c'est la plus belle ambiance qu'on pourra avoir dans un stade de football dans notre vie. C'est clairement c'est impressionnant. Il y a tout le monde qui était debout tout le match, qui chantait, qui encourageait son équipe. On a eu vraiment la chair de poule pendant 90 minutes, c'était vraiment un moment incroyable.
Complètement, on avait vraiment les oreilles qui sifflaient à la fin, la chair de poule comme tu dis, tout le match. Vraiment, oui, il y a quelque chose, on ressentait quelque chose qui se passait, surtout qu'on a, voilà, on a eu un match historique pour eux. On a eu, je pense, les deux buts de la saison également.
Le contexte a aidé en plus à ça.
Et c'était incroyable. Ouais.
Et donc, d'une ambiance exceptionnelle à une autre, vous faites aussi un match du RAD. Et donc on parlait tout à l'heure de Jelena Polić, donc qui est vice-présidente du RAD Belgrade, un club un peu, on va dire sympathique, avec des sympathiques supporters également.
Ouais, c'est
l'ambiance est plus merdique, hein, le lendemain de la meilleure ambiance qu'on a vue, quoi.
Un club particulier, quoi, on va dire. Voilà, il y a un petit penchant pour un petit côté de la politique, mais voilà, c'est un club comme un autre avec ses qualités et ses défauts quand même, qui sont surtout présents en tribune. Mais voilà, ça, c'était vraiment une autre vision du football serbe qu'on a pu avoir, et c'est une expérience quand même assez particulière qu'on a vécue ce soir-là.
Donc on rappelle hein, que les supporters du RAD Belgrade sont plutôt à droite, hein, plutôt, on va dire, et que dernièrement ils se sont distingués en insultant un joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade, si je dis pas de bêtises, qui lui-même avait été suspendu.
C'était Everton Louis du Partizan de Belgrade qui était sorti en larmes du terrain et qui s'était fait expulser parce qu'il avait fait un doigt d'honneur aux ultras. Bon, il y avait un joueur africain qui jouait pour le Choukaliki ce soir-là. Donc il y a eu un ou deux petits criptages, mais ils ont été plutôt calmes ce soir-là, on va dire.
Et je dirais que même ce qui était assez étonnant, c'est qu'en dehors du groupe d'ultra, donc qui a clairement tendance à tendre un peu le bras, tout le reste de la tribune vraiment n'a pas fait un seul bruit pendant tout le match. Vraiment pas, même sur une action, pas de frisson, pas de réaction. On avait vraiment l'impression, enfin plus que des spectateurs, au moins des spectateurs réagissent. C'était assez particulier. C'était une partie de tribune qui réagissait absolument pas à ce qui passait sur le terrain, et une autre qui faisait un numéro assez déplaisant à côté.
J'ai l'impression de voir les supporters de la Corée du Nord qui s'étaient déplacés pour la Coupe du Monde dans l'Afrique du Sud en 2010.
Un peu.
Belle comparaison, ça. Après, bah voilà, on va au niveau des questions un peu plus globales. Dans quel pays vous êtes senti le plus dépaysé?
Macédoine, moi je dirais.
Macédoine, ouais, parce que Kosovo, on a été extrêmement surpris. Hein. On s'attendait vraiment à avoir un pays qui, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Et quand on est arrivé à Pristina, franchement, on avait l'impression d'être, comme on a dit plusieurs fois avec Antoine, on avait l'impression d'être aux États-Unis. Quoi. Il y avait une statue de Clinton, il y avait pour manger une spécialité albanaise ou kosovare, fallait aller à l'autre bout de la ville parce que tu pouvais manger que des burgers dans la capitale. Donc c'était vraiment impressionnant. On s'attendait pas du tout à ça en arrivant à Pristina et un peu déçu bien sûr, pas avoir le côté folklorique, mais c'est vrai que
après on savait que c'est un aspect voilà qui fait partie de ça puisque les États-Unis soutiennent à fond ce pays donc. Tu croises des limousines quand tu vas boire un verre dans certains quartiers, des Mercedes, des Porsche. C'est assez particulier en fait cette façon de mettre en avant une certaine richesse que on sait très bien que les gens n'ont pas. On sait très bien que les gens vont s'endetter peut-être sur 30 ans pour acheter, voire même peut-être pour louer une voiture, une espèce de Porsche pour la soirée. Tandis qu'à côté, il y a un gars qui vend un saut de myrtille qu'il a dû acheter le matin, qu'il a dû cueillir le matin pour faire vivre sa famille. C'est de décalage quand même entre deux mondes, dont un auquel ils essayent de coller à fond, je pense, qui est assez particulier à voir.
Et justement, est-ce que vous diriez que l'image que vous aviez des pays dans lesquels vous êtes allé n'était pas la bonne finalement?
Bah pour moi, le Kosovo, oui. Après, Macédoine et Serbie, c'était à peu près comme je pouvais l'imaginer, mais c'est vrai que le Kosovo était vraiment, c'était vraiment la chose à laquelle je m'attendais moins.
Je dirais que la Serbie, je connaissais déjà Belgrade, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Même si Niš, on m'avait raconté des horreurs sur cette ville en me disant que c'était un centre industriel qui n'a absolument rien à faire. Alors j'ai trouvé que, enfin, nous, en tout cas, ce qu'on a fait, c'était une ville super agréable, des rues piétonnes, de la verdure partout. Même le stade, il est situé dans un grand parc public vraiment agréable. Et après, la Macédoine, je ne m'attendais pas à autant de présence de la religion musulmane. J'ai pas capté que l'influence ottomane était arrivée ju jusque là-bas, donc qu'il y avait autant de mosquées, autant de villes influencées par ça. Comme on dit, voilà, parfois on avait vraiment l'impression d'être en Albanie, et les gens le faisaient bien comprendre. Il y a des drapeaux à tous les coins de rue, des drapeaux albanais, des mosquées, une très belle mosquée à Tetovo également. Je ne m'attendais pas à avoir un pays aussi divers dans un city périmètre, justement.
Moi, c'était plus du côté de. Bon, bien sûr, vu que j'ai fait que la Macédoine, mais en fait, je m'attendais pas du tout à toutes ces rivalités parce que je pensais que les Macédoniens avaient des problèmes avec les Grecs pour ce qu'on sait, ce qui est dit dans les médias et ce qui est dit au grand public. Mais en fait, on se rend compte que sur place, à la limite, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un problème, mais pas plus que ça. Alors qu'il y a un conflit avec les Albanais qui empêche le pays d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que quand un Macédonien dit quelque chose, les Albanais vont pas écouter. Quand un Albanais dit quelque chose, le Macédonien va pas écouter. Donc quand on met ça à la politique et aux hautes sphères du pays, forcément, ça avance pas du tout. Donc en sachant qu'aussi l'identité slavo-macédonienne n'est pas très très claire et que les Bulgares voudraient bien se l'approprier tout comme les Grecs et même les Serbes d'un certain côté, notamment au niveau religieux. Donc en fait ça crée beaucoup de tensions et au final la Macédoine est un peu seule sur l'échiquier politique. Donc et c'est tout le monde en a conscience, et ça, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout en arrivant.
Est-ce qu'il y a, on parlait de politique là, même à l'instant, est-ce qu'il y a un club dont vous avez remarqué la présence via par exemple les boutiques, les graffitis, davantage que leurs résultats sportifs ou leur médiatisation? Est-ce qu'il y a un club que vous connaissiez pas, par exemple, qui vous a surpris à ce niveau-là, au niveau de l'ambiance et de la ferveur, même dans la rue, quoi? Vous parliez
Le Scandia,
du
je
Choupi
pense.
aussi tout à l'heure, avec 4 000, 5 000 spectateurs.
Ouais, je coupais. Alors, par contre, dans la rue, là, je te dirais que non, parce que c'est vraiment que le quartier. Et même dans le quartier, tu vas pas forcément voir des maillots non plus traîner, vu qu'en même temps, ils vendent pas de maillots. Donc, forcément. C'est, mais ouais, non, le, la faveur du Scoopy. Puis en plus, quand tu voyais les tags Chair is not Macedonia et pas mal de le groupe, le nom du groupe Ultra qui était tagué un petit peu partout aussi, donc dans le quartier. Donc ouais, non, franchement, Scoopy, c'était assez étonnant de voir toute cette ferveur derrière. On sent que c'est vraiment tous les Albanais de Skopje qui sont derrière le club, et ça rend vraiment pas mal. On sent qu'il y a une grosse identité derrière, et ils ont posé un peu leur empreinte sur les murs du quartier, voire de la ville. Ouais.
Moi, c'est plus le Scandia qui m'a impressionné de ce point de vue-là, parce que bon, c'est quand même un grand club désormais dans l'horizon politique macédonien, mais je ne m'attendais pas que ça ait une telle ampleur, parce que c'est vraiment toute une ville qui bat pour son club, quoi. C'est vraiment
toute une région même.
Voilà, toute une région, même ouais, toute une région des Balkans qui bat pour le Scandia. Même s'il y a un autre club dans la ville qui est le Tetex, mais qui est le club macédonien, donc qui n'est pas suivi, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Il y avait un fan shop sur la place centrale. Il y avait quand même pas mal de maillots du Scandia dans les rues. Donc c'était vraiment, j'ai vraiment été impressionné par la ferveur à Tetovo pour le Scandia.
Surtout que pour le Scandia, en fait, d'après ce qu'on nous a dit, c'est que tous les Albanais de Macédoine, où qu'ils soient, supportent plus ou moins le Scandia. Même les mecs de Scoopy, en Europa League, ils sont pas allés voir le Vardar, mais par contre, ils avaient tous leur ticket pour aller voir le Scandia. Donc, et c'est vraiment, d'après tout ce qu'on nous a dit et ce qu'on a vu, c'est tous les Albanais de Macédoine qui sont derrière le Scandia. Donc là, pour le coup, ouais, c'est plus que... Parce que Tetovo, au final, c'est pas une ville si grande que ça. Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est que c'est ouais, tous les Albanais de Macédoine sont derrière le club. Et ça, c'est vrai que je pensais pas non plus que c'était le cas en arrivant. Donc je rejoins Antoine sur ça, c'était complètement impressionnant.
Tetovo, c'est surtout la ville albanaise, la ville albanaise en Macédoine. C'est vrai que quand on était là-bas, moi, je pense que c'est l'une des villes où j'ai été le plus dépaysé, Tetovo, parce que j'avais vraiment l'impression d'être en Albanie. Quoi. J'avais vraiment l'impression de ne pas être dans les Balkans, mais être en Albanie. Et c'est vrai que cette influence albanaise dans la ville était assez saisissante. Je m'attendais pas du tout à ça en allant à Tetovo. Je m'attendais à voir une belle ville universitaire, parce qu'il y a pas mal d'universités là-bas. Mais c'était assez saisissant. Notre journée à Tetovo a été très marquante, du début à la fin.
Et au niveau des stades que vous avez visités, outre l'ambiance évidemment, où je pense qu'à ce niveau-là, le Maracana doit être mille lieues au-dessus de tout, est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un stade particulier?
Moi, comme je disais tout à l'heure, je coupe.
Et c'est parce que l'ambiance ou c'est parce que l'architecture c'est pas là qu'il y a une table de presse c'était une palette ou un truc comme ça?
Non, ça c'était à Kitchevo. Mais Kitchevo, c'est t'avais la belle montagne et la palette, ouais, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose. Mais non, je coupe. En fait, il n'y a qu'une seule tribune. Mais bon, après, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Scandia ou le Vardar qui ont des vrais stades. Et même le stade du Scandia est vraiment très sympa, assez vieux, donc avec une forte identité dedans, on sent tout le poids de l'histoire qu'il peut y avoir dans ce stade. Donc, mais Scoopy, c'est vraiment le club de quartier, en fait. Donc, le club de quartier avec les mecs du quartier qui sont là et une belle ambiance, même s'il n'y a qu'une seule tribune. Donc, bien sûr, pas architecture, mais c'est pour ce côté vraiment familial et on est tous derrière le club, tout le quartier derrière le club. Donc, c'est vraiment ça que j'ai adoré de mon côté.
Moi, pour ma part, c'est le stade qu'on a fait à Belgrade le samedi midi, même si j'ai pas assisté à une longue partie du match. C'était un petit stade tout simple, mais qui avait une vue vraiment magnifique sur la forteresse de Belgrade en arrière-plan. C'était vraiment magnifique. C'était un stade, on est tombé un peu dessus par hasard parce qu'on a galéré pour le trouver. On a fait des kilomètres pour le trouver. Mais franchement, le résultat en valait la peine, avec la belle vue sur la forteresse derrière. Après, bien sûr, le stade du Partizan Belgrade avec son club de tir au souterrain, c'était aussi sympa à voir.
C'est clair. Mais je rejoins Antoine, ouais, sur le club au pied des remparts de Belgrade, le Polet d'Orchol. C'est vrai qu'au départ, en fait, on avait cherché donc le nom du club qui se confond avec le nom de la régie d'autobus. Donc on était tombé quasiment sur le dépôt d'autobus de la ville. au bord des docks de la ville, etc. Donc on se dit, bon, s'il y a un stade là-dedans, dans ce quartier, ça a vraiment été un truc particulier. Au final, il était beaucoup plus loin et beaucoup plus sympa. Et ouais, c'était vraiment le match du dimanche, même si c'est samedi. C'est le match du dimanche qu'on aimerait tous faire. Une ambiance très très familiale, très quartier aussi. Enfin, tous les gens qui aiment le foot à Belgrade, bah, s'ils ont envie, ils vont se faire ce match de foot. Et voilà, c'était assez drôle avec un des remplaçants des équipes qui m'a demandé si je pouvais aller chercher une bière à la mi-temps. Enfin, voilà, ce genre de belles choses. Avec un espèce de clubhouse en briques sur pilotis au bord du terrain. On sentait qu'ils avaient essayé d'étendre le bar à côté pour que tout le monde puisse en profiter. Avec les policiers à côté des pompes à bière. Enfin voilà, c'était un beau truc. Mais forcément, Shkupi et Shkendia étaient aussi à chaque fois des expériences à part.
Et transition idéale pour la question que les auditeurs attendaient depuis le début du podcast. Évidemment, la boisson, la nourriture. Est-ce que vous avez goûté aux spécialités locales, aux bières locales, aux alcools locaux?
On a fait que ça. En tout cas, on essaye.
On va laisser Damien répondre parce que je crois que les bières, il a bien aimé.
La bière, oui, il y avait deux bières. Donc la plus connue, qui est la bière de Skopje, c'était c'était quoi son nom d'ailleurs déjà? Skopko, qui est une bonne bière. Il y a la deuxième, c'est la Dab. C'est la bière de. C'était près de Bitola, non? Qui faisait ça?
Ah, c'est ça.
Et ouais, près de Bitola, donc une super bonne bière aussi, très houblonnée, que perso j'aimais beaucoup. Et surtout en Macédoine, l'alcool, c'est le mastic, le mastica, qui c'est un alcool anisé, et un peu comme du pastis en France, ça pourrait être la comparaison vu que c'est anisé. Mais on boit ça ouais en shot après un repas en digestif, c'était vraiment sympa.
Et au niveau des prix, c'est compétitif, ça va?
Ah oui, c'est très intéressant pour nous qui venons de l'Europe occidentale. On a été totalement dépaysés également sur la grille des tarifs, hein. On a mangé dans un restaurant, dans un très bon restaurant à Skopje, pour moins de 10 euros par personne, et à la fin on avait vraiment très très bien mangé. C'est vraiment très intéressant, que ce soit pour les transports, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les matchs, que ce soit pour tout. C'est très attractif, très intéressant, bien sûr.
D'ailleurs, il y avait un plat que j'avais pas mal aimé aussi, une sorte de cassoulet macédonien. C'était avec une sorte de gratin de haricots, et qui était vraiment super bon, servi en plus dans un plat en terre cuite. Donc bon, c'était plus un plat hivernal, je pense, mais on s'est quand même bien régalé. Il y avait la bonne nourriture, puis les fameux bourreks, bien sûr, à la viande, aux épinards ou au fromage, qui bon, ça après c'est dans tous les Balkans, mais ça reste une valeur sûre.
C'est ça. Sans oublier la rakia, on n'a pas parlé dans les boissons, mais on a forcément testé un peu tout ce qu'on pouvait trouver comme rakia, la boisson nationale des Balkans.
Ouais, la rakia, mais bon, on va rester sur le mastic, la mastica de Strumica, qui était quand même la belle découverte. Je pense que c'est comme Macédoine, peut-être en Serbie aussi, mais c'est pas sûr.
Ah non, c'est typique macédonien, ouais. C'est typique. Ça se rapproche plus de l'ouzo-grec, en fait, donc c'est plus l'influence, là, vraiment de la Grèce, je pense.
Eh bien, parfait, messieurs. Je pense qu'on va pouvoir... On va pouvoir arrêter là, donc vous pourrez lire l'ensemble des articles que nos trois rédacteurs vont publier. Je crois qu'il y a 14 articles, c'est ça, que vous avez prévu sur les deux semaines à venir.
Ouais, c'est à ça. Peu près, ouais.
C'est ça.
Voilà, donc 14 articles, tous plus intéressants les uns que les autres, que vous pourrez donc lire sur footballski.fr. On vous encourage aussi à lire les articles des footballski trips précédents, comme on en a parlé tout à l'heure en Géorgie, en République tchèque notamment. Est-ce que vous avez justement d'autres projets pour les années à venir, pour les étés à venir?
Ben justement, on disait que ce serait la première fois l'été prochain qu'il n'y en aurait pas probablement une pause due à la Coupe du Monde en Russie. Donc avec un autre dispositif qui sera mis en place, mais bon là on va pas tout révéler ici. Vous restez connectés, vous le verrez bien, vous aurez plus d'informations dans les mois qui arriveront. Après moi... Vu que je vais pas aller en Russie, c'est possible que je fasse quand même un petit trip en Europe de l'Est, mais sinon, ouais, ça serait pas. Le prochain football ski trip, ça serait pas avant 2 ans, a priori.
Et pour nous, avec Antoine, on avait peut-être parlé de ça. On avait envisagé peut-être le projet à Belgrade, de peut-être faire le week-end de Pâques à Moscou, à voir si ça se fait ou pas.
Et ben, en tout cas, restez connectés, du coup, sur Football Ski. Plein de nouveaux articles à venir. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, évidemment, sur laquelle à l'heure vous écoutez. Et à bientôt pour de nouveaux podcasts Football Ski. Salut.
Salut, à bientôt.
Salut.